je commence donc par rappeler les séminaires, les prochains séminaires. Tout d'abord, tout à l'heure à 11h, ce sera Martin Weiss du Max Planck Institute for Quantum Optics de Garching, que je suis heureux de saluer ici, qui va nous parler d'expériences Cold Atoms in Periodic Light Fields, New Methods in Atom Optics. Alors, la semaine prochaine, les cours et les séminaires s'arrêteront, comme un voyage à l'étranger, et ils reprendront cours et séminaires le 24 novembre 1998 avec un séminaire de Philip Stamp de l'Université de British Columbia à Vancouver sur Decoherence and the Spin Bath. Et le 1er décembre, à 11h, ce sera Sandro Stringari de Trento, en Italie, qui nous parlera de Dynamics of Trapped Boss Gases, Quantum versus Interaction Effects. Et j'espère être en mesure, le 24 novembre, de vous donner les deux derniers séminaires de cette année. Donc, je reprends maintenant le cours, et je rappelle d'abord très brièvement ce qui a été établi la semaine dernière. Le cours précédent a été consacré à l'établissement de l'équation de Gross-Pitaevsky. Vous rappelez que nous sommes partis du Hamiltonien de n particules plongées dans un potentiel extérieur et interagissant par une certaine forme d'interaction. Et nous avons cherché l'état fondamental du système par une méthode variationnelle consistant à supposer que tous les atomes sont dans le même état décrit par phi, un état visiblement complètement symétrique. Et en faisant varier phi dans tout l'espace, on sous-tend un sous-espace de l'espace des Hilbert, et en minimisant la fonctionnelle énergie, valeur moyenne de H sur norme de psi, on a obtenu cette équation, qui est une équation non linéaire, moins alpha 2 sur 2m, laplacien phi, plus v extérieur r phi, plus, donc ça c'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de piégeage, plus ng phi de r en module au carré phi de r, ça c'est l'énergie d'interaction avec les autres particules, égale mu phi de r. Et cette équation a une structure très simple, elle décrit la dynamique d'une particule de masse m, soumise à un potentiel extérieur v de r, et subissant le champ moyen, le potentiel moyen créé par les n-1 autres. En réalité, dans cette équation, quand on établit l'équation, on a ici n-1, mais quand n est très grand, on peut valablement, bien sûr, remplacer n-1 par n. G est le paramètre qui apparaît dans la Hamiltonienne d'interaction. Quand on utilise le pseudo-potentiel, G delta de R1,2, D sur DR, 1,2 de R1,2, mais je vous rappelle que G est lié à la longueur de diffusion, par cette relation, j égale 4 pi f par 2 sur n, petit a. Et à la fin, les divers termes qui apparaissent dans la fonctionnelle énergie, c'est-à-dire qu'à toute fonction phi individuelle, on peut associer une énergie qui dépend de phi, un nombre qui dépend de phi, un nombre réel, et cette fonctionnelle est de phi, c'est un terme d'énergie cinétique, un terme de piège, de piégeage, et un terme d'interaction. Voici le terme d'énergie cinétique, moins n h par 2 sur 2m, somme de v3r phi étoile, laplacien phi, qu'on peut encore écrire n alpha 2 sur vgm, somme de v3r, gradient phi en module au carré, un terme d'énergie de piégeage qui somme de v3r phi étoile de r, l'extérieur de r phi de r, et enfin un terme d'interaction qui est 1/2 de gn2, somme de v3r phi de r en module à la puissance 4. Je rappelle que dans toute cette présentation, on fera une normalisation de phi égale à 1, c'est-à-dire que la densité de particules au point r, n de r, c'est n fois phi de r en module au carré. Et j'avais terminé la semaine précédente en considérant le cas de n bosons dans une boîte avec des murs parfaitement réfléchissants, et je vous avais montré que la fonction phi s'annule au voisinage de la boîte et qu'elle s'annule sur une distance caractéristique de l'ordre de la longueur de relaxation 1 sur racine de 8 pi n à 0. n a fois est la longueur de diffusion. Alors aujourd'hui j'aborde une autre application importante de l'équation de Gross-Pitaevsky, c'est d'étudier la structure du condensat dans un piège harmonique. Donc j'aborde un nouveau chapitre, qui est donc le condensat dans un piège harmonique. Que je supposerai pour simplifier la plupart du temps isotrope, bien que les calculs soient très facilement généralisable au cas d'un potentiel anisotrope, d'un potentiel harmonique qui aurait trois fréquences propres de vibrations différentes. Alors, je commence, si vous voulez, par une introduction rapide. Donc, je suppose que V extérieur de R, dans ce cours, est de la forme 1/2 de M oméga 0,2 R2, où R est la distance à l'origine, oméga 0 la fréquence de vibration dans le piège. Alors, nous voyons apparaître dans ce problème, nous voyons apparaître une nouvelle longueur, en plus de toutes les longueurs que nous avons introduites jusqu'à présent, une longueur importante, qui est la dimension, l'extension de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, que j'appellerai sigma égale racine carrée de h bar sur m oméga 0. Je crois qu'il n'est pas inutile de faire un petit peu la récapitulation de toutes les longueurs que nous avons vues jusqu'à présent. Il y a une longueur extrêmement importante, qui est la longueur de diffusion A, qui caractérise les collisions dans l'angle S. Il y a une autre longueur importante, qui est la distance moyenne entre atomes, qui est dépendante de la densité n, petit n. Chaque atome occupe un volume n cube, donc en multipliant n cube par n, la densité de particules, on va avoir 1, puisqu'on a une particule par volume n cube, donc l, la distance moyenne entre particules, c'est n à la puissance moins 1 tiers. Enfin, la semaine dernière, j'ai vu une autre longueur, qui était xi0, la longueur de relaxation, qui était 1 sur racine de 8pi nA. Donc aujourd'hui, nous voyons apparaître une nouvelle longueur, qui est la longueur caractéristique du piégeur. Alors, les problèmes qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle est la forme du condensat ? On sait bien que s'il n'y avait pas d'interaction, toutes les particules se condenseraient dans l'état fondamental du piège, et on aurait une gaussienne, qui est la gaussienne de largeur sigma. En présence d'interaction, cette forme va être changée. Comment ? Est-ce que les modifications sont importantes ? Est-ce qu'elles sont importantes pour un milieu dilué ? Comment caractériser les interactions ? Quel est le paramètre sans dimension qui caractérise les interactions ? Un autre problème extrêmement important, c'est quelle est l'importance du signe de A dans une boîte infinie, si on prend une longueur de diffusion A négative, c'est-à-dire si on prend une interaction effective attractive, le condensat n'est pas stable. Il a tendance à se former quelque chose de plus en plus compact et il s'effondre. Est-ce qu'il en est de même dans un piège ? Est-ce que le potentiel de piégeage est suffisant pour empêcher l'effondrement lié aux interactions attractives, effectives attractives entre atomes ? Donc, on peut se poser la question de la stabilité du condensat pour A négatif. Donc voilà un peu les questions que je voudrais traiter aujourd'hui. Et avant tout, on va commencer maintenant à revenir sur le cours précédent et à faire un petit peu l'ordre de grandeur des énergies caractéristiques. Alors, j'ai commencé par un calcul extrêmement qualitatif. D'abord, E cinétique, c'est l'énergie de confinement. D'abord, je vais supposer, si vous voulez, après tout, quand il y a des interactions, mon condensat n'a aucune raison d'avoir un rayon de l'ordre de sigma. J'appellerai R le rayon du condensat. Et puis, je vais repérer R par rapport à sigma, R sur sigma. Ça fait un paramètre sans dimension, W, je crois que c'est bien dans le sens que je définis. Oui, R sur sigma égale W. Et je voudrais, l'idée que je vais essayer de suivre ici, je vais essayer de calculer l'ordre de grandeur des trois énergies cinétiques de piège et d'interaction en fonction de W, et voir quelle est la valeur de W qui rend la fonctionnelle d'énergie minimum. Ça me donnera la valeur de W la plus probable. Alors, je vais commencer par le calcul avec les mains. Et cinétique, c'est 1 par 2 sur 2 MR2. Ça, c'est l'énergie de confinement. Et je peux écrire ça sous la forme 1 par 2 sur 2 M sigma 2 sigma 2 sur R2. Sigma, c'est racine de la marche dans l'oméga. Quand je remplace ceci par... Attends, je suis oublié ici L, bien sûr. Quand je remplace sigma par racine de la valeur sur un oméga, soit c'est 1 bar oméga sur 2, donc j'obtiens E cinétique de l'ordre de grandeur de N alpha oméga 0 sur 2, 1 sur W. Plus W est petit, plus le condensat est petit, plus son confinement est important, plus l'énergie cinétique de confinement est importante. L'énergie maintenant de piégeage, c'est de l'ordre de 1 demi de M oméga 2 R2. Et ça, en multipliant côté bas par sigma 2, M oméga 2 sigma 2, c'est H bar oméga que multiplie N H bar oméga 0 sur 2. Donc ceci, c'est de l'ordre de H bar oméga 0 sur 2, R2 sur sigma 2. Pardon, R2 sur sigma 2, oui. Donc, E piège, c'est de l'ordre de N H bar oméga 0 sur 2, W2. Là, au contraire, plus le condensat est gros, plus il va explorer des parties élevées du potentiel de piégeage, et plus l'énergie de piégeage va être importante. Alors, l'énergie d'interaction, c'est à peine un peu plus compliqué. Je le fais donc sur transparent. D'après la formule qui est ici, ceci, c'est 1 demi somme de G, somme de D3R, et N phi de R en module au carré, qui est N2, donc c'est N carré de R. C'est l'intégrale de N carré de R qui multiplie 1 demi de G. Bon, alors que vaut la densité? La densité, c'est le nombre total de particules divisé par le volume, ça fait une sorte de densité moyenne, et donc 3N sur 4 tiers 3. Donc l'interaction, c'est 1 demi de G, l'intégrale de ceci au carré, c'est-à-dire 1 demi de G, L carré que multiplie le volume, ou L carré donné par cette formule. Donc c'est 1 demi de G, 3N sur 4 pi R3 au carré, 4 pi R3 sur 3. Donc 1 demi de G, 3N2 sur 4 pi R3. Je rappelle que G, c'est 4 pi R par 2 NA, je remplace G par son expression, et j'obtiens donc E interaction donnée par cette formule. On fait apparaître ici H par 2, qu'on remplace par M oméga 0. Si je multiplie M par oméga 0 pour faire apparaître la même chose qu'ici, j'aurai H bar oméga 0 au dénominateur, H bar 2 sur M oméga 0 c'est sigma 2, j'ai 3 AN, je multiplie O T bar par sigma, je fais 3 AN sur sigma qui est sans dimension, je multiplie sigma 3 sur 1 3 qui est 1 sur W3, et j'obtiens donc E interaction de l'ordre de grandeur de 1 demi de N H bar. 1 demi de NH bar oméga, 0, que multiplie 3 pi, 1 sur W3, et je vois apparaître ici un paramètre nouveau extrêmement important, qui est W, qui est qui égale à N sur sigma. Et je m'excuse, ici c'est 1 sur W3. Alors là aussi, plus le condensat est petit, plus les particules sont proches l'une des autres, les unes des autres, et plus l'interaction est importante. Donc l'interaction, l'énergie d'interaction varie comme 1 sur W3. J'ai donc la somme d'un terme en 1 sur W2, en W2 et 1 sur W3. Et je m'aperçois qu'elles sont toutes de l'ordre de NH bar oméga 0, avec des paramètres en dimension W ici, et ici, dans le dernier terme, un nouveau paramètre qui caractérise les interactions, qui est le produit AN sur sigma, longueur de diffusion qui multiplie le nombre de particules divisé par la largeur du piège, non du piège sans interaction, par la largeur de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Alors, j'ai fait ici un calcul extrêmement simple. On peut faire un calcul un peu plus précis. Je vais simplement vous donner des résultats, qui ne présentent aucune difficulté. On va faire un calcul variationnel. en prenant comme sous-espace des fonctions phi de 1, phi de 2, phi de n, un produit de n fonctions d'onde identiques, on va prendre des fonctions d'onde gaussiennes. Alors, en faisant ainsi, on ne sous-tend pas tout le sous-espace des fonctions produits. On sous-tend un sous-espace de ce sous-espace, qui est le sous-espace des fonctions produits gaussiennes. Simplement, comme c'est des gaussiennes, on peut faire tous les calculs analytiquement. Donc, on prend une famille variationnelle de gaussiennes, normalisée de largeur R, c'est-à-dire de largeur W sigma. C'est donc 1 sur pi puissance 3 quarts W3 sigma 3 à la puissance 1,5 et puissance moins R2 sur W2 sigma 2. Et on remet ces fonctions gaussiennes dans les trois intégrales qu'il y a là. C'est toutes des intégrales avec des gaussiennes, elles sont calculables analytiquement. Et on trouve maintenant des résultats qui rappellent tout à fait cela, à part que le coefficient qu'il y a devant est maintenant un peu plus précis. C'est plus un calcul avec les mains. Et on trouve donc, je vais l'écrire ici parce qu'il va nous servir tout ça, on trouve et de phi, donc dans le sous-espace des fonctions produits gaussiennes, égale n alpha oméga 0. Ça c'est l'énergie à un facteur frais si les particules étaient non interagissantes. 3 quarts de 1 sur W2, ça c'est le terme cinétique, on trouve le même facteur bien sûr 1 sur W2, plus 3 quarts de W2, ça c'est le terme d'énergie potentielle, et le terme d'interaction 1 sur W3, le coefficient est 1 sur racine de 2 pi, pi 1 sur W3. Alors maintenant, on voit tout de suite l'importance du paramètre pi, parce que si je prends pi très très petit devant 1, et si dans une première étape je néglige ce terme, le minimum de 1 sur W2 plus W2, c'est réalisé pour W égale 1. Je retrouve bien qu'en absence d'interaction, le minimum d'énergie totale serait R égale sigma. Donc le minimum de cela, c'est pour W égale 1. Mais si je remplace maintenant, si je retiens compte du terme d'interaction, si je veux faire W égale 1 dans ce terme, je trouve une énergie d'interaction qui est de l'ordre de pi. Si pi est tout petit devant 1, le terme d'interaction va représenter une toute petite correction. Je pourrais éventuellement étudier comment il déplace le minimum, mais c'est un effet de correction. Si par contre, pi est très très grand devant 1, ce terme devient très important. Et pour W égale 1, qui, la valeur minimisant cette quantité, ce terme-là est de l'ordre de pi sur racine de 2pi, beaucoup plus grand que 1, et à ce moment-là, je ne peux absolument pas l'ignorer. Il va complètement changer la position du minimum, et même le faire disparaître éventuellement. D'accord ? Donc, le paramètre pi, c'est le paramètre qui définit l'intensité des interactions. Pi petit, ça veut dire interaction faible, pi grand, ça veut dire interaction forte. Bon, alors maintenant, je vais étudier successivement le cas A positif et le cas A négatif. Si je reviens à cette formule qui est écrite là, si A est positif, tous les trois termes sont positifs, ces deux-là sont des fonctions décroissantes de W, ce terme-là est une fonction croissante de W, quand j'ajoute les trois fonctions, j'aurai toujours un minimum. Donc je peux prédire qu'il y aura toujours un condensateur, quel que soit A. Maintenant, essayer de voir un peu plus quantitativement ce qui se passe. On peut résoudre numériquement l'équation de Gross-Pitaïsky. Ça a été fait par plusieurs auteurs qui sont mentionnés dans la référence concernant la type de revue de Sandro Stringari, de ses collègues. Cette référence qui est 1 dans les notes. Et voilà par exemple les résultats de l'intégration numérique de l'équation de Gross-Witaïski dans le cas A positif, qui représente la fonction d'onde le long d'un axe, phi de z, qui a la symétrie sphérique, pour différentes valeurs croissantes de chi. Et vous voyez très clairement ici, en pointillé, c'est chi égale 0. On a la gaussienne de l'oscillateur harmonique. Chi égale 1, chi égale 10, chi égale 100. On voit très bien que, sous l'effet des interactions, le condensat gonfle. D'accord ? Sa largeur devient plus grande, évidemment, phi au carré au 100 devient plus petit. Donc on peut dire que vraiment il y a un gonflement du condensat. Et vous voyez que cet effet devient énorme, devient vraiment important. Pour chi égale 100, la largeur est multipliée par presque un facteur 3. Donc c'est un effet vraiment important macroscopiquement. Alors justement, on peut se poser la question suivante. Comment est-ce qu'on peut sentir un peu comment croît le rayon du condensat en fonction de qui ? Comment on dit, quel est l'ordre de grandeur du rayon du condensat ? Eh bien, si vous voulez, je vais le calculer ici, mais je reviens à ce terme. Et puis, je vais supposer, donc, rayon du condensat quand pi très grand dans 1. Si je reviens à cette expression, si je prends les deux termes qui décroissent, il y en a un qui est multiplié par pi, donc qui est important, l'autre non. L'un décroît comme 1 sur W3, l'autre comme 1 sur W2. Donc pour W assez grand, c'est 1 sur W2 qui va finalement emporter. Mais je vais vous montrer d'abord que le minimum est atteint avant que, pour une valeur de W, pas suffisamment grande pour que ce terme devienne prépondérant devant celui-là. Donc je vais commencer, admettons ça pour le moment, et on va supposer que ce terme reste négligeable. On va tenir compte que de celui-là et de celui-là. Alors là, le calcul est extrêmement simple. Je le donne ici. Si je néglige et cinétique devant et interaction, j'ai à chercher le minimum d'une fonction W2 plus qui sur W3. Je laisse tomber les facteurs qu'il y a devant, hein, pour le moment. Alors, je dérive ça, ça va faire 2W moins 3Qi sur W4. Oui, et je m'excuse, là, oui, ça fait 2W moins 3Qi sur W4, et la solution de cette équation, c'est W minimum varie comme Qi à la puissance 1 cinquième. Donc si je crois cette formule, je trouve que R varie comme Qi à la puissance 1 cinquième. Je mets tout décidément. Alors après, je vais dire maintenant, après coup, que pour cette valeur de W minimum, j'ai bien le droit de négliger ce terme devant celui-là. Alors pour cela, je calcule et cinétique sur et interaction. C'est 1 sur W2 divisé par qui sur W3. C'est W sur qui. Et si je remplace W par qui à la puissance 1 cinquième, je trouve que pour W égale W minimum, et cinétique sur et interaction, est de l'ordre de qui à la puissance 1 cinquième sur qui, c'est-à-dire qui à la puissance moins 4 cinquième, qui est très petit devant 1, c'est qui est très grand. Donc je vérifie donc après coup que pour le minimum du terme et potentiel plus et interaction, le minimum est atteint pour une valeur telle que l'énergie cinétique est encore négligeable devant et interaction. D'accord ? Donc pour les qui très grands devant 1, il est légitime de négliger le terme énergie cinétique, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, spécialement pour faire un paragraphe spécial sur ce cas précis. L'approximation consistant à négliger et cinétique, ou ce qui revient au même, moins h par 2 sur 2m, laplacien phi dans l'équation de Gross-Witaïski, cette approximation, c'est ce qu'on appelle l'approximation de Thomas-Fermi. Elle n'est valable évidemment que pour des interactions très fortes. Avant de quitter le cas A positif, je voudrais maintenant discuter un petit peu le problème de l'importance des interactions. Je reprends maintenant un raisonnement que j'avais fait en fait sans le justifier dans le premier cours, mais maintenant on a des résultats beaucoup plus précis. je rappelle d'abord, la distance moyenne entre particules L est de l'ordre de R n puissance moins 1 tiers. Et je me pose la question suivante, est-il possible d'avoir des interactions qui ont un effet important dans un milieu qui est dilué? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un milieu dilué? C'est un milieu dans lequel la distance entre particules est grande devant la distance caractérisant les interactions. La distance qui est, dans notre problème, la longueur de diffusion. Alors, pour A positif, je vais me limiter ici à A positif, R est plus grand que sigma. Puisque qui est plus grand que 1? Donc L est plus grand que R à n puissance moins 1 tiers, où je remplace R par sigma. Donc A sur L est plus petit que A sur sigma, n puissance moins 1, plus 1 tiers. Un milieu dilué, c'est un milieu pour lequel A sur L est très petit devant 1. Et un milieu où il y a des interactions fortes, d'après ce que je viens de voir, c'est un milieu où chi égale à n sur sigma est très grand devant 1. Alors question, est-il possible d'avoir des paramètres tels que A sur L est très petit devant 1, milieu dilué, tout en ayant en même temps chi très grand devant 1, c'est-à-dire un milieu où il y a des interactions fortes. Alors, reprenons par exemple les expériences de MIT, du groupe de Ketterle sur le sodium. A est égal à 3 nanomètres, c'est-à-dire 3 10 moins 9 mètres. Sigma est de l'ordre de 30 microns, c'est-à-dire 3 10 moins 5 mètres. L de l'ordre de 10 puissance 6. A sur sigma, n puissance moins 1 tiers. Je sais que A, c'est une bande supérieure de A sur L. Est égal à 3 10 moins 9 sur 3 10 moins 5, comme j'ai dit, 10 puissance 2. C'est 10 moins 2, c'est très petit devant 1. Et comme A sur L est plus petit que cette quantité, ça veut dire que A sur L est plus petit que 10 moins 2. Donc A sur L est très petit. Donc c'est un milieu dilué. Mais en même temps, AN sigma, AN sur sigma, c'est 3 10 moins 9 sur 3 10 moins 16 que multiplie 10 puissance 6. C'est 10 puissance 2. C'est-à-dire qu'on a des interactions fortes. Donc vous voyez, on a ici un milieu dilué et en même temps des interactions fortes. Alors c'est ça d'ailleurs l'intérêt un peu de la condensation de Bose-Einstein dans les gaz dilués, c'est que ça permet de voir des effets macroscopiques liés aux interactions dans un milieu qui est tout de même dilué, dans lequel on peut faire des calculs perturbatifs sur l'effet des interactions. Donc ça, c'est une idée importante à laquelle nous pouvons maintenant répondre de manière quantitative. Alors, dans le premier cours, j'avais simplement annoncé les résultats. Alors, je passe maintenant à l'autre cas. Qui est le cas A négatif. Alors, si je reviens toujours à cette fameuse formule ici, ce dernier terme est négatif. Ça veut dire que l'énergie va être la somme d'un terme négatif et croissant, qui est ce terme-là, d'un terme positif et croissant, ces deux termes sont croissants. Et le seul terme qui peut les balancer pour avoir un minimum, c'est celui-là qui est un terme décroissant. Alors, on sent bien que si ce terme-là, qui est prépondérant pour W petit, si je prends W petit, c'est le terme important. Si qui est très grand devant 1, c'est lui qui va dominer la somme énergie cinétique plus énergie d'interaction. Et on va avoir donc la somme de deux termes croissants, l'un négatif, l'autre positif, mais l'ensemble va être croissant, dont la courbe donnant E de phi en fonction de W ne va plus avoir de minimum. Donc il n'y aura plus de condensation stable. Par contre, si qui est très très petit, ça va être ces deux termes-là qui sont importants, et on va quand même avoir un minimum. Et puis pour W tout petit, évidemment, le dernier va l'importer, on va avoir quelque chose de négatif. Alors tout ça, c'est avec les mêmes, il suffit de porter cette courbe en fonction de W pour diverses valeurs de qui, et voilà ce qu'on obtient. Toujours la même référence, c'est la référence de l'article de Sandro Stringari. Il y a également beaucoup de références qui sont données dans les notes. À la fin, il y a plusieurs personnes qui ont étudié ce problème, en particulier le groupe de Kagan, Filiapnikov et Baravin. Sackett, Stouff, Hewlett, Pitalski, il y a énormément de littérature sur ce sujet. Alors, voilà par exemple, pour qui petit, qui égale 0,3, vous voyez, on a toujours un minimum, et puis pour quand qui devient tout petit, c'est le terme d'interaction qui l'emporte, on a quelque chose comme ça. Puis on augmente qui égale 0,4, qui égale 0,5, qui égale 0,6, on voit que le terme de négatif qui croît devient de plus en plus important, et puis qui égale 0,6, qui égale 0,7, à partir d'une certaine valeur de qui, il n'y a plus de minimum, il n'y a plus de condensation stable. Donc il y a une valeur critique de qui, au-dessus de laquelle il n'y a plus de condensation stable. Il y a donc un cri critique tel que quand qui supérieur à qui critique fait prendre en face. Alors en fait, si on se limite à l'approximation gaussienne, à la famille variationnelle gaussienne, on peut étudier ce régime critique analytiquement. Je le fais très rapidement, c'est un peu une curiosité. Je ne vais pas découper la courbe. Quand je suis au qui critique ici, j'ai une courbe ici qui, le minimum, se transforme en point d'inflexion, un point où la dérivée est nulle et la dérivée première est nulle, et puis en dessous, il n'y a plus de minimum. Donc le régime critique, c'est un point, un qui tel que pour qui égale qui critique et W égale W critique, la dérivée totale de l'énergie, la dérivée de l'énergie totale par rapport à W est nulle, et la dérivée seconde de l'énergie totale par rapport à W est nulle aussi. Donc on a ces deux équations. Évidemment, je remplace ici qui par moins module de qui, puisque A est négatif, et on différencie cette équation une première fois, on obtient moins 6 quarts de W critique moins 3 plus 6 quarts de W critique plus 3 sur racine de 2 pi critique W critique moins 4 égale 0. Et on dérive une deuxième fois, 8 quarts de W critique à la puissance moins 4, je m'excuse, c'est pas 8 quarts, c'est moins 18 quarts. J'espère que je ne me suis pas trompé sur les notes.
Non,
c'est bon. C'est 18K. W critique, à puissance moins 4, plus 6K, moins 12 sur racine de 2 pi qui critique, W critique, puissance moins 5, égale 0. J'ai deux équations pour deux inconnus, W critique et qui critique. On multiplie la première par 4 sur W critique, la deuxième par 1, on les ajoute. Ça fait partir ce terme. Et j'obtiens cette équation, qui ne dépend plus que de W critique, et qui me donne W critique égale 5 puissance moins 1 quart égale 0,669. D'ailleurs, on voit bien sur la courbe précédente que c'est entre qui égale 0,6 et qui égale 0,7 que la courbe passe d'une courbe qui a un minimum à une courbe qui n'a plus de minimum. Et si maintenant je remplace, je m'excuse, c'est W critique. Ensuite, quand je remplace W critique par cette valeur-là, j'obtiens la valeur de qui critique qui est 0,671, qui est une valeur comprise entre 0,6 et 0,7. Donc voilà une estimation de qui critique qui est de l'ordre de 0,671. Et qu'on fait le calcul analytique, numérique, pardon, qu'on fait le calcul numérique, ça a été fait, je crois, par le groupe de Keith-Burnett, on trouve que le qui critique, donc, le qui critique gaussien, c'est 0,671, et le qui critique numérique, c'est de l'ordre de 0,575. Vous voyez qu'à 15%, 20% près, on retrouve le résultat de l'approximation gaussienne. Et le calcul numérique donne non seulement la valeur de qui critique, mais donne aussi la forme du condensat, bien sûr. Et voici par exemple, un réseau de courbes donnant la fonction d'onde le long de l'axe Z en fonction de Z sur sigma, quand qui croît, qui égale 0, la fonction de l'onde gaussienne, qui égale 0,1, 0,3, 0,5. À la différence de tout à l'heure, au lieu de gonfler, maintenant le condensat se rétrécit, hein, les interactions attractives diminuent le rayon, et puis à partir d'une certaine valeur de qui, l'équation n'a plus de solution. Il y a un effondrement du condensat. Donc, retenons cette idée, l'idée que un condensat peut exister pour un négatif, mais il ne faut pas que la densité soit trop forte. En dessous d'une certaine valeur, au-dessus d'une certaine valeur de M, le condensat s'effondre sous l'effet des interactions effectives attractives. Bien, alors, maintenant, je vais aborder un cinquième paragraphe. Je reviens au cas A positif. je reviens dans mon cas tout de suite, mais au cas où qui est très très grand devant 1. Parce que quand qui est très très grand devant 1, des approximations deviennent possibles, consistant à négliger le terme d'énergie cinétique, et ces approximations permettent de simplifier l'équation de Gross-Pitaïsky au point où elle peut donner des résultats analytiques. Et donc c'est intéressant d'avoir des résultats analytiques parce qu'on peut, discuter sur les dépendances en elles, sur les dépendances des divers paramètres et comparer avec l'expérience. Donc là, vous avez vu que, expérimentalement, on réalise facilement des situations pour qui peut être l'ordre de 100, voire 1000. Bon, alors je prends donc maintenant le cas où A positif, et qui très grand devant 1, c'est ce qu'on appelle donc la limite de Thomas Fermi. Et je commence par, malheureusement, j'ai effacé l'équation de Gross-Pitaïsky, je vais la réécrire rapidement. On a moins h bar 2 sur 2 L, Laplacien phi, plus V extérieur phi de L. C'est pas peine de mettre V extérieur, mais 1 demi de M oméga 2 R2. Plus Mg. Alors, je vais supposer ici que, comme état fondamental, en général, la fonction de onde est réelle, il n'y a pas de nœud et la fonction de onde est réelle, donc au lieu d'écrire phi de R au module carré qui multiplie phi, on écrit phi de R au cube. Et bien, mu de R, je rappelle que mu, c'est le potentiel chimique. La semaine dernière, j'ai interprété le paramètre phi, le paramètre qui est un multiplicateur de Lagrange, et j'ai montré que c'était un potentiel chimique. Alors, dans la limite de Thomas Fermi, je vous ai démontré tout à l'heure que l'effet de ce terme était négligeable, était tout petit, ne changeait pas la position du minimum de ces deux-là. Et je peux donc, l'approximation correspondante au niveau des potentiels de Thomas Fermi consiste à négliger ce terme. Alors, si je néglige ce terme, l'équation de Gross-Pitaïsky devient une équation algébrique qui me donne immédiatement phi de R. D'accord ? Et j'obtiens, en supposant phi de R différent de 0, que ça fixe par phi de R, et j'obtiens N de R, la densité au point R, qui est égale à N phi de R au carré, égale, alors simplifiant par phi de R ici, par phi de R ici, égale 1 sur G, qui multiplie mu moins 1 demi de m oméga 0,2 r2. Et j'obtiens maintenant une forme analytique pour la densité du condensat qui montre que le condensat est une parabole inversée. Je l'ai dessiné ici, sur ce transparent. Voilà, n phi de r au carré égale 1 sur g mu moins 1 demi de 1 oméga 0 de R2, en fonction de R, c'est la courbe en rouge ici, c'est une parabole inversée qui part pour R égale 0 d'une valeur maximale égale à mu sur G, potentiel chimique divisé par le paramètre G caractérisant une interaction. Évidemment, il faut l'arrêter au moment où ça devient nul, parce que N de R ne peut pas devenir négatif. Après, N de R est nul en principe. Donc N de R s'annule ici pour une valeur maximale de R, R max, qui est donné par racine de 2 mu sur m oméga 0 2. Alors, tout de suite, ici, évidemment, ici, c'est très mou, la variation de n avec r est très molle, donc le terme d'énergie cinétique est très faible, mais en ce point anguleux, la dérivée subit une discontinuité, et à ce moment-là, je ne peux plus négliger, bien sûr, le terme d'énergie cinétique. Alors, ce problème a été étudié très en détail, à ce moment-là, il faut revenir au voisinage du point, anguleux et remettre ce terme dans l'équation. Et ça rappelle beaucoup les calculs qu'on fait dans l'équation de WKV, l'approximation WKV au voisinage d'un point tournant. On remplace le potentiel par un potentiel linéaire et on résout, on fait apparaître des fonctions dérivées et on trouve à ce moment-là des termes correctifs qui montrent que la fonction d'onde ici, L de R, varie de manière un petit peu plus molle. Et ça s'arrondit, ça arrondit les angles et la distance caractéristique, c'est la longueur de relaxation psi que j'avais produit la dernière fois. Je n'insiste pas là-dessus, mais il y a eu des calculs analytiques complets qui ont été faits sur ce problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que la forme du condensat n'est plus gaussienne. Ça explique d'ailleurs pourquoi le calcul variationnel gaussien ne donne pas des résultats excellents. Il ne pouvait pas, a priori, puisque la forme tend vers une parabole. D'ailleurs, je vous avais montré, lors du premier cours, les résultats expérimentaux. Il y en a eu plusieurs, hein, mais un qui est donné dans l'article de Stringari. Le groupe du Roland Laboratory, le groupe de Hao, Bush, Liu, Zutunberg et Golovchenko. Il donne ici la mesure de la forme du condensat par mesure d'absorption. Donc ce qu'on mesure ainsi, c'est l'absorption intégrée sur une colonne en fonction de Z. En pointillé, ce que vous avez ici, c'est la fonction d'onde gaussienne de l'état fondamental. C'est ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'interaction. Première remarque, vous voyez que l'effet d'interaction est spectaculaire. Le condensat est nettement différent. D'autre part, vous voyez que la forme du condensat ici, la courbe en trait plein, les points sont les points expérimentaux, et la courbe en trait plein, c'est un ajustement par une parabole inversée. Vous voyez que l'ajustement par une parabole inversée représente pas mal les résultats. Donc la forme est beaucoup plus proche d'une parabole inversée que d'une gaussienne. Voilà donc une première prédiction intéressante qu'on peut faire à partir de la confirmation du tout thermique. Maintenant, deuxième point, on peut calculer maintenant le potentiel chimique. Mais, je rappelle que l'équation de Gross-Bitaïsky dans cette limite est donnée ici. Mu apparaît ici, et Ender est donné par cette équation. Je connais G, je connais oméga 0, et je sais bien sûr que l'intégrale dans tout l'espace de N est égale au nombre total de particules que j'ai dans mon condensat. Donc, en écrivant que l'intégrale sur D3R de N de R est égale à 1, je vais avoir une équation qui me donne mu. D'accord ? Donc, on peut avoir une expression analytique du potentiel chimique, qui est donnée ici. C'est là, oui.
Je crois que c'est là.
Pas commode, hein. Il ne va pas tenir, là.
Il ne va pas tenir.
Bon, on va essayer. Alors voilà le calcul du potentiel chimique. Voilà N de R qui est donné par cette expression. On intègre ceci dans tout l'espace sur 1. On doit être égal à pour un résultat égal à 1. J'obtiens donc 1 sur G, somme de D3R mu moins 1,5 de M oméga 0 de R2 égale 1. Et ça c'est égal à, comme N de R s'annule au-delà de R max, c'est somme de 0 à R max. Et comme ça a une symétrie sphérique, c'est 4 pi R2 dr, somme de 0 à R max, égale cette formule, je multiplie mu moins ceci, c'est de l'intégrale élémentaire, je remplace G par son expression fonction de A, et j'obtiens donc au deuxième membre 1 égale une fonction de mu. Et on obtient un calcul vraiment élémentaire, donne mu égale H bar oméga 0 sur 2, 15 AN sur sigma à la puissance 2 cinquième. D'accord ? Donc, le potentiel chimique varie comme n à la puissance 2 cinquième. Alors, si je regarde cette formule, et si je me rappelle que mu, c'est la dérivée de l'énergie totale par rapport à n, à entropie constante, et à volume constant, si je regarde cette formule, ici on a toujours entropie nulle, on est à 0 degré, A sigma oméga 0 ne dépend pas de n, donc forcément E de n c'est simplement la primitive de cette fonction, et l'intégrale de n à la puissance 2 cinquième c'est n à la puissance 7 cinquième sur 7 cinquième, et je trouve donc que l'énergie E de n, donc mu varie comme n à la puissance 2 cinquième, et l'énergie totale E de n varie comme n à la puissance 7 cinquième. Et l'énergie totale par particule, E de n sur n, varie comme... Alors là, on peut même le faire encore mieux. Si je divise E de n par n, je retiens exactement l'expression de mu au facteur 1 sur 7 cinquième près. C'est-à-dire que je trouve que E de n sur n, c'est 5 septième, c'est ça? C'est 5 cinquième de mu. Voilà donc toute une série de résultats analytiques sur le potentiel chimique, l'énergie totale, c'est l'énergie totale par particule. Je voudrais faire remarquer ici que, contrairement à ce qu'un raisonnement naïf laisserait croire, quand les interactions sont fortes, je suppose ici les interactions fortes, l'énergie totale n'est pas simplement l'énergie d'interaction naïvement calculée en disant qu'il y a n, n moins 1 sur 2 paires. L'erreur de ce raisonnement, c'est que quand on augmente n, le condensat gonfle. Et donc les particules s'éloignent, et donc l'énergie d'interaction n'augmente pas aussi vite que n au carré, elle augmente simplement comme n à la puissance 7 cinquième. C'est lié au fait du gonflement du condensat. Et en utilisant le fait que le condensat gonfle, R gonfle comme qui à la puissance 5 cinquième, on peut facilement retrouver cette valeur 7 cinquième. Donc, ça c'est un point important. Alors, il y a maintenant une autre grandeur que je voudrais calculer, parce que c'est telle qu'on mesure en général expérimentalement, c'est l'énergie libérée par coupure du piège. Donc ça c'est un point important, je voudrais insister un peu dessus. Quand on a le condensat dans un piège harmonique, on peut couper les champs magnétiques brusquement, très très rapidement, et à ce moment-là, le condensat explose. Alors, c'est un problème intéressant d'ailleurs, mais je reviendrai dans un cours ultérieur, dans deux ou trois semaines, c'est d'étudier comment le condensat va exploser, comment sa forme va évoluer au cours de l'expansion balistique. Mais ici, je ne vais pas faire ça parce que ça, il faut à ce moment-là avoir l'équation de Gross-Pitaïevski dépendant du temps. C'est un problème dépendant du temps. Ici, je vais raisonner uniquement sur des problèmes des bilans d'énergie. J'ai une certaine énergie initiale dans le piège, je coupe brutalement le piège, le condensat va exploser, les particules vont partir, elles vont être tellement loin au bout d'un moment que l'énergie d'interaction est devenue négligeable, et donc toute l'énergie initiale va se transformer en énergie cinétique. Et c'est cette énergie cinétique qu'on peut mesurer expérimentalement en mesurant la vitesse des particules, par des techniques de temps de vol. Donc c'est une grandeur accessible à l'expérience. Alors pour raisonner là-dessus, qu'est-ce qu'on prend? On dit avant la coupure, et total avant. Et cinétique avant, plus et piège avant, plus et interaction avant. Ces trois valeurs, si j'ai attendu suffisamment longtemps, c'est les valeurs stationnaires que j'ai calculées aujourd'hui. Comme je suis à la limite de Thomas Fermi, ce terme, je peux le négliger. Coupure du piège brutale, quand je coupe le piège brutalement, l'énergie de piégeage passe brutalement de et piège avant à zéro. Donc, juste après la coupure du piège, l'énergie totale, c'est finalement uniquement l'énergie d'interaction avant le piège. Et ensuite, après un certain temps, le condensat va avoir explosé, l'énergie d'interaction initiale, puisqu'il n'y a plus d'énergie de piégeage, et qu'il n'y a plus de d'énergie cinétique négligeable, toute cette énergie d'interaction avant va se transformer en énergie cinétique. Et c'est ça qu'on mesure. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est énergie libérée égale à l'énergie cinétique après, mais après un temps long. Hein. Et c'est donc l'énergie d'interaction avant. Et ça, c'est l'énergie d'interaction au régime stationnaire. D'accord ? Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est calculer l'énergie d'interaction en fonction de l'énergie totale. Alors, pour cela, j'utilise deux équations très importantes que j'ai introduites la semaine dernière, des équations qui sont dérivées de manière exacte, rigoureuse, à partir de l'équation de Gross-Pitaïsky. Si on admet les approximations conduisant à l'équation de Gross-Pitaïsky, ces équations sont exactes. Alors, j'en donne les deux. J'avais démontré la semaine dernière que mu égale 1 sur n et cinétique plus et piège plus 2 et interaction. Et j'avais beaucoup insisté sur ce 2-là, qui paraît un peu bizarre par rapport à l'énergie totale qui est cinétique plus énergie d'interaction plus énergie piège plus interaction. Ça, c'était une première formule que j'avais obtenue. Et j'avais également établi une deuxième formule qui était le théorème du viriel, qui exprimait comment les diverses énergies changer dans une dilatation du piège le long de l'un des axes. Et cette deuxième équation, c'était 2e cinétique moins 2e piège plus 3e interaction égale 0. Comme je suis à la limite Thomas Fermi, je néglige E cinétique. Cette équation me permet de remplacer E piège en fonction de E interaction. Et en régime stationnaire, non. Et quand je reporte E piège en fonction de 3 demi de E interaction là-dedans, j'obtiens que E interaction égale 2 septièmes de UN. Donc ça, c'est une formule exacte à la limite de Thomas Fermi. Et ça m'entraîne que l'énergie libérée, c'est 2 septièmes de UN. Et par suite, E libérée sur N. L'énergie libérée par particule après explosion du piège, c'est 2 septièmes de mu. Voilà encore une formule analytique. Et je vous rappelle que mu varie comme n à la puissance 2 cinquièmes, et j'ai donné une expression analytique de mu. Donc on peut calculer théoriquement l'énergie cinétique libérée par particule après coupure brutale du piège, et on trouve qu'elle varie comme n à la puissance 2 cinquièmes, avec un coefficient qu'on peut calculer. Et je vous redonne ici une courbe expérimentale, obtenu dans le groupe de Ketterle à MIT sur le sodium, obtenu je crois par Marc Olivet, c'est pas idée. Si c'est pas... voilà la courbe, une des premières publications de ce groupe, montrant l'énergie libérée par particule en nano-kelvin en fonction du nombre d'atomes condensés. Vous voyez que le nombre d'atomes condensés peut atteindre 4 puissance 6. Les points sont des points expérimentaux et la courbe qui est en très plein et la courbe n à la puissance 2 cinquième que multiplie le coefficient numérique que j'ai donné tout à l'heure. Donc vous voyez que le fit des résultats expérimentaux est parfait. C'est une très bonne loi n 2 cinquième. S'il n'y avait pas d'interaction, je vous rappelle que l'énergie de chaque particule dans le piège, c'est d'après le théorème du viriel, c'est 1 demi d'énergie cinétique, 1 demi d'énergie potentielle, 1 demi fois de h bar oméga 0 sur 2, et quand ça explose, c'est h bar oméga sur 2. Donc l'énergie libérée par particule est indépendante du nombre de particules s'il n'y avait pas d'interaction. Ici, ça dépend comme n à la puissance 2 cinquième, donc c'est une très belle manifestation des effets des interactions. Je vais donner ici deux courbes expérimentales, la courbe de la forme du piège et la courbe de l'énergie libérée, qui montrent que pour des gaz dilués, les effets des interactions donnent des effets macroscopiques visibles. Et ce qui est, je crois, magnifique dans ce champ de recherche, c'est qu'à partir de paramètres microscopiques, comme la longueur de diffusion, finalement dans toutes les formules que j'ai données aujourd'hui, il y a n, qui est un paramètre macroscopique, il y a oméga 0, la fréquence du piège, et le seul paramètre microscopique, c'est petit a, la longueur de diffusion. Et à partir d'un paramètre microscopique petit a, qui représente ce qui se passe dans une collision à deux corps, on peut reproduire des propriétés macroscopiques d'un objet quantique macroscopique qui est un condensat. Donc on a vraiment un très bel exemple de théorie physique permettant de remonter des paramètres microscopiques à des propriétés macroscopiques. Enfin, je voudrais étudier très rapidement ce qui se passe quand le piège est anisotrope. jusqu'ici, j'ai étudié toujours un piège isotrope, mais en fait, la plupart des pièges réalisés expérimentalement sont fortement anisotropes. Et en général, ils ont la forme d'un cigare. Le potentiel de piégeage est 1/2 de m oméga z carré z2 plus oméga perpendiculaire au carré r2, où r2 c'est x2 plus y2, et oméga perpendiculaire est en général beaucoup plus grand qu'oméga z, donc on a la forme d'un cigare allongé le long de l'axe z. Alors, le raisonnement que je viens de faire pour la limite de Thomas Fermi se généralise de manière évidente dans ce cas-là. On réécrit l'équation de Gross-Pitaïski, moins alpha 2 sur 2m de Laplace phi, plus 1/2 de m oméga z carré z2, plus oméga perpendiculaire carré r2 plus phi, plus ng phi 3 égale mu phi. On néglige le terme d'énergie cinétique puisqu'on est à la limite de Thomas Fermi. Et on obtient n phi carré égale n égale 1 sur g mu moins 1/2 de m oméga z carré z2, moins 1/2 de m oméga r carré r2. Donc, le condensat a la forme de parabole inversée, le long de z et le long de x et de y, mais avec des courbures différentes, avec des concavités différentes. Et le long de z, quand je fais r égale 0, n s'annule pour z max égale racine carrée de 2 mu sur m oméga z carré, alors que le long de x et de y, quand je fais z égale 0, il s'annule pour R max égale racine de 2 mu sur m oméga perpendiculaire carré. Donc je peux calculer très facilement la taille maximale du piège le long des trois axes. Et on voit à ce moment-là que le piège, le condensat, a une forme anisotrope, puisque sa taille maximum le long de Z et le long de R n'est pas la même. C'est ce qu'on appelle en anglais aspect ratio, le rapport d'aspect, qui est égal à Z max sur R max. Et comme ils sont chacun proportionnels à 1 sur racine d'oméga z carré, c'est-à-dire 1 sur oméga z, ou 1 sur racine d'oméga perpendiculaire carré, c'est-à-dire 1 sur oméga perpendiculaire, le rapport d'aspect est égal à oméga perpendiculaire sur oméga z. Si je me rappelle maintenant ce qui se passe en l'absence d'interaction, j'ai les gaussiennes de l'oscillateur harmonique, dont les largeurs sont racine carrée de h bar sur m oméga z et racine carrée de h bar sur m oméga perpendiculaire. À ce moment-là, j'ai une racine carrée. Et le rapport d'aspect en l'absence d'interaction, c'est racine de oméga perpendiculaire sur oméga z, qui est plus petit que oméga perpendiculaire sur oméga z, si oméga perpendiculaire est plus grand qu'oméga z. Donc, on en conclut que les interactions augmentent l'anisotropie apparente du piège. En présence d'interaction, le piège paraît plus anisotrope qu'il ne le paraît quand les interactions sont faibles. Ça, c'est un résultat important. Et on peut aussi vérifier expérimentalement cette quantité sur les images qu'on obtient sur le piège. Enfin, dernier point, on peut aussi calculer la densité au centre du condensat. Vous voyez que la limite de Thomas Fermi est une limite extrêmement agréable, parce qu'on peut tout calculer analytiquement. On peut calculer la forme du condensat, toutes les caractéristiques qui le décrivent. Alors, je vous rappelle que, en présence d'interaction, le maximum de la parabole est au point mu sur g, donc c'est mu sur 4pi h bar 2 à m, et j'ai donné l'expression tout à l'heure de mu, qui est un facteur, un coefficient numérique qui multiplie n à la puissance 7 cinquième. Donc je connais la densité analytiquement au centre du piège. En l'absence d'interaction, j'ai la gaussienne, qui est 1 sur pi puissance 3 quarts, sigma 3 demi, et puissance moins r2 sur 2 sigma 2, phi 0 carré égale 1 sur pi 3 demi, sigma 3, de sorte que je peux calculer le rapport de la densité au centre en présence d'interaction à la densité en absence d'interaction, et je trouve m mu sur 4pi h bar 2a, ce coefficient numérique, et quand on remplace mu par la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure, on trouve que le rapport des densités au centre en présence et en absence d'interaction, les interactions étant fortes, c'est un coefficient numérique, 15 à la puissance 2 cinquième sur 8 pi 1/2, qui multiplie qui à la puissance moins 3 cinquième, qui étant AN sur sigma, le fameux paramètre AN sur sigma. Et vous voyez évidemment que, quand on trouve un résultat, c'est que la densité diminue parce que le condensat gonfle, et la densité diminue en qui puissance moins 3 cinquième, ce qui n'est pas étonnant puisque j'ai trouvé tout à l'heure que le rayon croissait comme qui à la puissance 1 cinquième. Donc, en résumé, vous voyez que l'équation de Gross-Pitaïski permet de réellement d'étudier ce qui se passe dans un condensat au zéro absolu, quand il n'y a aucune particule, toutes les particules sont dans le condensat, et qu'elle donne de l'état fondamental une description extrêmement intéressante. Alors, il manque des choses là-dedans, que j'ai souligné au début de la leçon précédente, quand j'avais dit qu'une méthode variationnelle de type Hartree-Fock consistait à prendre un vecteur d'état qui est un produit. Donc on néglige les corrélations qui entre particules. Ici, quand toutes les particules sont dans la même fonction d'onde, la probabilité, la densité de probabilité à deux corps, probabilité de trouver une particule en, au point R, sachant que j'en ai trouvé une autre au point R', se factorise. La densité à deux corps se factorise. En fait, on sait bien que ce n'est pas vrai, il y a des corrélations à courte distance entre particules. Toutes les particules ne sont pas dans le condensat, il y a des particules qui ne sont pas dans une boîte, par exemple, qui ne sont pas dans l'état K égale 0. Et avant de passer à ce qui se passe quand on fait varier le potentiel extérieur en fonction du temps, j'en ai donné un exemple aujourd'hui, on peut simplement couper le potentiel extérieur et regarder ce qui se passe sur le condensat. On peut aussi faire vibrer le potentiel extérieur et mettre le condensat en vibration forcée et étudier les modes de vibration du condensat. Donc avant d'étudier les problèmes dépendants du temps, je pense qu'il sera intéressant qu'on essaye d'améliorer la connaissance de l'état fondamental en prenant un modèle un peu plus élaboré que l'approximation de Hartree-Fock, qui est ce qu'on appelle la méthode de Bogoliubov, que j'aborderai la prochaine fois, et qui permet d'apporter un certain nombre de compléments, d'éclairages nouveaux. D'abord, elle montre qu'il existe des corrélations de particules dans l'état fondamental, que la fonction à deux corps, la densité à deux corps ne se factorise pas. Deuxièmement, elle montre que dans une boîte à t égale 0, toutes les particules ne sont pas dans l'état k égale 0, il y a une fraction qui n'est pas condensée, qu'on appelle la déplétion quantique du condensat. Et surtout, l'équation de Bogoliubov permet également d'étudier les premiers niveaux excités du système, ce qu'une méthode variationnelle n'est pas bien adaptée à faire. On va étudier les premières excitations du système, et en particulier ce qu'on appelle les excitations élémentaires. On verra qu'il y a des modes de vibration du type phonon qui peuvent se propager dans le condensat avec une certaine vitesse. Donc je consacrerai deux séances, celle du 24 et celle du 1er décembre, à l'étude de l'équation de Bogoliubov en détail. Et ensuite, les deux dernières séances, je reviendrai au problème dépendant du temps et j'étudierai les modes de vibration du condensat, d'une part, et d'autre part, l'explosion du condensat quand on coupe brusquement le potentiel. C'est-à-dire, j'aborderai les problèmes liés à l'équation de Gross-Pitaïevski dépendant du temps. Donc, je m'arrête aujourd'hui. Je rappelle encore une fois que la semaine prochaine, il n'y aura ni cours ni séminaire et que l'enseignement reprendra au 24 novembre.